Rivera entendit crier Juan Diego.
« T'as perdu la main pour les miracles, tu t'es vendu !» dit Lupe à la poupée.
Rivera freina, sortit du pick-up et s'élança vers le jeune homme blessé. Diablo aboyait comme un fou, des hurlements inhabituels. Tous les chiens de Guerrero l'imitèrent aussitôt.
« Et voilà, regarde ce que t'as fait !»
dit Lupe à la figurine en descendant du véhicule pour accourir auprès de son frère. Le pied droit du gamin avait été écrasé. Il saignait, formant un angle aigu avec sa cheville et son mollet. Rivera emporta l'enfant dans ses bras pour l'installer dans la cabine. Juan Diego aurait bien continué à hurler, mais la douleur lui coupait le souffle. Il suffoquait, inspirait, bloquait sa respiration à nouveau. Il perdit sa chaussure.
« Tâche de respirer normalement, sinon tu vas t'évanouir, » dit Rivera. « Tu vas peut-être le changer maintenant, ce rétro de merde !» hurla Lupe. « Qu'est-ce qu'elle raconte? J'espère qu'elle parle pas de mon rétro. Je fais ce que je peux pour respirer normalement, » répondit Juan Diego.
Lupe monta en voiture la première pour que son frère puisse poser sa tête sur ses genoux et sortir son pied blessé par la fenêtre passager.
« Emmène-le chez le docteur Vargas !»
hurla-t-elle à Rivera, qui comprit ce nom à défaut du reste.
« Voyons d'abord s'il se produit un miracle, et après on ira chez Vargas, » proposa Rivera. « Tu peux toujours courir pour le miracle, » dit Lupe.
Elle donna un coup de poing à la figurine du pare-brise qui se remit à danser.
« Ne me confie pas aux jésuites. Il n'y en a qu'un que j'aime et c'est frère Pépé. « Peut-être qu'il vaudrait mieux que ce soit moi qui explique à votre mère, » dit Rivera.
En traversant Guerrero, il roula lentement pour ne pas écraser de chien, mais une fois sur la grande route, il se mit à foncer. Les cahots arrachaient des gémissements à Juan Diego. Son pied blessé, qui continuait à saigner par la fenêtre, avait laissé des traînées sur le siège passager. Dans le rétroviseur encore intact, la tête de Diablo se reflétait piquetée de rouge. Le vent rabattait un flot de sang vers l'arrière où Diablo le léchait.
« C'est du cannibalisme !» cria Rivera. « Quel traître ce chien !»«
C'est pas le mot !» contredit Lupe avec son indignation morale habituelle.
« Les chiens aiment le sang, Diablo est un bon chien !»
Les mâchoires serrées sous l'effet de la douleur, Juan Diego ne put traduire le plaidoyer de sa sœur en faveur du chien buveur de sang. Sa tête roulait sur les genoux de Lupe. Quand il parvint à la tenir immobile, il crut voir le même échange de regards menaçants entre la poupée Guadalupe sur le pare-brise et sa sœur, pourtant fervente adoratrice de la sainte. C'était d'ailleurs à elle que la petite devait son nom. Quant à Juan Diego, il portait celui de l'Indien qui avait rencontré la Vierge à la peau sombre en 1531. Les Niños de la Basura étaient issus des Indiens du Nouveau Monde, mais ils avaient aussi du sang espagnol et se considéraient également comme les descendants des conquistadors. Juan Diego et Lupe n'étaient pas convaincus que la Vierge de Guadalupe veillait sur eux jour et nuit.
« Tu ferais mieux de lui adresser une prière, espèce d'ingrate !» dit Rivera à la gamine. « Mécréante, va, prie pour ton frère, demande-lui son aide !»
Juan Diego était là de traduire les invectives de sa sœur contre la Vierge. Il serra les dents et les lèvres. Pas un son ne sortit de sa bouche.
« Guadalupe a été corrompue par les catholiques. C'était notre Vierge à nous, mais ils nous l'ont volée. Ils en ont fait la servante indigène de Marie. Pourquoi pas son esclave pendant qu'ils y étaient, ou bien sa bonne ?»« Blasphème! Sacrilège, païenne que tu es !»
s'écria Rivera, qui n'avait pas besoin qu'on lui traduise cette diatribe, ayant souvent entendu les sorties de Lupe. Sa relation d'amour-haine avec la sainte n'était pas un secret pour lui, pas davantage que son antipathie à l'égard de la Vierge Marie. Cette petite folle la tenait pour une usurpatrice, qui avait pris la place de la Vierge de Guadalupe, les rusés jésuites l'ayant détournée à leur fin personnelle. La Virgen Morena avait été compromise, corrompue. Elle, jadis miraculeuse, avait perdu ses pouvoirs. Cette fois, l'enfant lança un coup de pied quasi mortel à la poupée. Mais la ventouse qui la fixait au pare-brise tint bon, si bien qu'elle se mit à se trémousser de façon peu virginale. Dans son geste, Lupe s'était très légèrement courbé, ce qui avait suffi à déclencher un hurlement de douleur.
« Tu fais mal à ton frère, voyons !» s'écria Rivera.
Lupe se pencha sur Juan Diego et lui baisa le front. Ses cheveux à l'odeur de fumée ruisselant le long des joues du blessé.
« N'oublie pas !» lui chuchota-t-elle.
C'est nous le miracle, toi et moi, pas eux, nous.
Les paupières serrées, Juan Diego entendit l'avion rugir au-dessus d'eux. À ce moment-là, il savait seulement qu'il n'était pas loin de l'aéroport. Il ignorait qui se trouvait dans cet avion à l'approche. Alors que dans son rêve, au contraire, il savait tout. Y compris l'avenir, en partie, du moins. « C'est nous qui faisons des miracles », chuchota-t-il. Il dormait. Il rêvait toujours alors que ses lèvres remuaient. Personne ne l'entendait. On n'entend pas un auteur qui écrit en dormant. Le vol Cathay Pacific 841 fonçait sur Hong Kong, avec à sa droite le détroit de Taïwan et à sa gauche la mer de Chine. Mais dans son rêve, Juan Diego n'avait que 14 ans. Il était à bord du pick-up de Rivera. Il souffrait et ne savait que répéter à sa sœur « C'est nous qui faisons des miracles ». Tous les passagers de l'avion étaient peut-être endormis. De fait, ni la mère très avertie des choses de ce monde, ni sa fille à peine moins redoutable, ne l'avaient entendu. Chapitre 5 Contre vents et marées. L'Américain qui atterrit à Oaxaca ce matin-là, et qui allait jouer un rôle clé dans l'avenir de Juan Diego, était un jeune séminariste. Les jésuites venaient de l'engager comme professeur à leur école et leur orphelinat. C'était frère Pépé qui l'avait choisi sur la liste des candidats. Le père Alfonso et le père Octavio avaient bien émis quelques réserves sur la qualité de son espagnol, mais Pépé leur avait fait ressortir qu'il était surqualifié pour le poste. Il avait fait de brillantes études, il n'aurait aucun mal à se mettre à niveau dans leur langue. Au regard de los niños perdidos, tout le monde l'attendait. Sœur Gloria exceptée, les religieuses qui s'occupaient des orphelins avaient confié à Pépé que sa photo leur plaisait. Sans rien en dire à personne, Pépé la trouvait engageante lui aussi. S'il était possible que le zèle se voie en photo, il se voyait sur la sienne. Le père Alfonso et le père Octavio avaient envoyé Pépé attendre le nouveau missionnaire à l'aéroport. D'après la photo de son dossier, celui-ci l'aurait imaginé plus costaud et un peu plus âgé. Or, non seulement Edward Boncho n'avait pas 30 ans, mais il avait beaucoup maigri ces derniers temps et n'avait pas cru bon de renouveler sa garde-robe pour autant. Il nageait dans ses vêtements qui lui donnaient une allure de clown en dépit de son expression sérieuse, voire grave, comme un enfant qu'on aurait habillé de briques et de broc. Il faisait l'effet du Benjamin d'une famille nombreuse, perpétuellement noyée dans les hardes des divers grands frères et cousins plus âgés. Quant à sa chemisette hawaïenne, perroquet et palmier, ses manches lui couvraient les coudes et ses pans lui tombaient jusqu'aux genoux. À sa descente d'avion, il marcha sur ses bas de pantalon avachi. Comme d'habitude, l'avion venait d'estourbir à l'atterrissage une ou plusieurs poules divaguant sur le tarmac. Les bourrasques faisaient voler des plumes d'un brun rougeâtre, car là où se rencontrent les deux chaînes de la Sierra Madre, il y a de sacrés coups de vent. Mais Edward Boncho ne s'aperçut pas qu'une poule ou plusieurs avaient trouvé la mort. Il considéra que les plumes et le vent lui souhaitaient une chaleureuse bienvenue à titre personnel. « Edward ?» allait dire frère Pépé lorsqu'une plume collée à sa lèvre inférieure l'obligea à cracher. Le jeune Américain lui paraissait freluquet, pas à sa place, mal préparé, et il se rappela combien il était peu sûr de lui au même âge, et il eut un élan d'affection envers le jeune homme, comme s'il faisait partie des orphelins à sa charge. Les 3 ans qu'il avait passés à se préparer à la prêtrise s'appelaient la régence. 3 ans d'études de théologie l'attendaient ensuite, puis ce serait l'ordination, se remémorait Pépé tout en évaluant l'étudiant aux prises avec les plumes. Une fois ordonné, le malheureux aurait droit à une 4e année de théologie, lui qui avait déjà soutenu une thèse de littérature anglaise. Fallait-il s'étonner qu'il ait maigri? Or, Pépé sous-estimait le jeune zélote qui cherchait, au prix d'efforts surhumains, à se donner des airs de héros conquérant dans son maelstrom de plumes. Il ignorait que celui-ci descendait d'une horde d'ancêtres redoutables, même selon des critères jésuitiques. Les Boncho étaient en effet originaires de la région de Dumfries, aux marches de l'Angleterre. Andrew, l'arrière-grand-père, avait émigré au Canada dans les provinces maritimes. Duncan, le grand-père, avait choisi les États-Unis, mais avec circonspection. Je ne me suis pas aventuré plus loin que